Docteur Pascal Constantin, bonjour.
Bonjour.
Docteur Constantin, vous êtes spécialisé en médecine hyperbarique.
Mon titre exact, je suis praticien confirmé dans la technique médico-militaire de médecine de la plongée.
Docteur Constantin, vous êtes donc à l'hôpital Sainte-Anne, vous êtes dans le service du docteur Hugon, je crois.
Oui, donc je suis médecin adjoint de service qui donc regroupe l'expertise et le centre d'oxygénothérapie hyperbarique échapoté par le médecin en chef Hugon.
Alors docteur, qu'est-ce que c'est exactement la médecine hyperbare? À quoi ça sert?
La médecine hyperbare, ça sert à soigner les gens bien entendu, ça sert à soigner d'une part les accidents de plongée, mais aussi plein d'autres maladies.
J'ai entendu dire que les lésions post-radiques pouvaient être nettement améliorées grâce à cette médecine.
Je crois que, en l'état actuel de nos connaissances, c'est une des meilleures indications. Parce que on est les seuls à pouvoir proposer une amélioration à ces patients. Et une amélioration qui peut considérablement modifier leurs conditions de vie.
D'après ce que je sais aussi, à faible coût.
À un coût qui est beaucoup plus faible que celui de la prise en charge des lésions.
Est-ce que c'est un traitement uniquement qui s'opère en caisson? Est-ce qu'il y a une médication?
Il n'y a pas de traitement. Par contre, c'est long. C'est-à-dire que pour améliorer une lésion radique, bien souvent, c'est de l'ordre de 40 séances, c'est-à-dire un traitement qui va s'échelonner sur un mois et demi, deux mois.
À raison de combien de temps par séance?
Il y a des variations, mais en gros, ça dure une heure et demie.
Aussi sur le traitement du pied diabétique, peut-être que ça peut améliorer?
Le pied diabétique, il y a de très nombreuses études et donc il a été prouvé que la thérapeutique hyperbare avait un intérêt net.
Docteur Constantin, en quoi le centre hyperbare de l'hôpital Sainte-Anne est-il unique?
Donc ce centre est particulier, unique, dans le sens où nos moyens de compression sont spécifiques. On est capable d'aller à 50 mètres en 50 secondes, ce qui n'a pas d'intérêt en compression, mais a un gros intérêt en décompression, dans le sens où on peut étaler jusqu'à la surface une vitesse linéaire, ce qui sécurise toute cette décompression et les procédures de palier, simplifie les calculs de procédures de palier. Par ailleurs, ces moyens sont dimensionnés par la société Comex, et on est très très content de travailler avec ces appareils qui sont actuellement dans ce qu'on peut faire de mieux.
Alors ces appareils, je les ai vus, ce sont des espèces de grosses bulles en métal avec une espèce de sas.
Oui, on a donc deux chambres hyperbares et un sas, et on a tous les moyens de compression. Les chambres hyperbares en elles-mêmes sont anciennes. Par contre, ce sont les moyens de compression et le diamètre des tuyaux et la chaudronnerie qui a été fait dessus qui rendent ce centre particulier.
Docteur Constantin, je crois que vous êtes un centre d'expertise pour le personnel militaire et civil.
Oui, nous sommes donc un centre d'expertise principalement pour le personnel militaire, les démineurs, les nageurs de combat, les plongeurs de bord, enfin tous les plongeurs des armées viennent soit pour les visites initiales avant qu'ils deviennent plongeurs, soit pour des visites révisionnelles, soit pour des aptitudes en cas de problèmes particuliers qui leur sont arrivés soit dans le cadre professionnel d'un accident de plongée, reprise après un accident de plongée, soit suite à une maladie. La question est, sont-ils aptes à recommencer à plonger? Donc cet aspect d'expertise.
Je suppose qu'il y a des critères bien spécifiques que vous examinez?
Oui, tous les appareils, les poumons, le cœur, toutes les fonctions vitales sont appréciées en regard de la contrainte hyperbare.
Docteur, quels sont les principaux motifs d'inaptitude que vous rencontrez?
La sphère ORL qui est fréquemment atteinte. Si les gens ont des gros troubles ORL avant d'entrer en plongée, c'est pas bien possible. Dans l'aptitude de la plongée, il y a un électroencéphalogramme. Tous les gens qui sont épileptiques, évidemment, seront éliminés de la plongée. Les troubles pulmonaires, les gens qui ont des pneumothorax, les gens qui ont eu des maladies pulmonaires importantes seront aussi éliminés. Enfin, dans l'armée, on est beaucoup plus rigoureux sur cette aptitude de la plongée puisqu'on va former des plongeurs professionnels dans des contraintes difficiles. Certaines contre-indications qui seraient relatives pour le civil sont pour nous discriminatoires car on fait une sélection au sein des armées. Le but n'est pas de faire plonger tout le monde. Ce vers quoi on peut tendre, c'est de faire une sélection des gens les plus aptes à faire leur métier dans des conditions difficiles.
Docteur Constantin, je crois que votre médecine hyperbare a aussi un aspect de recherche thérapeutique.
Oui, de longue date, la recherche en médecine de la plongée a été un axe soutenu par les armées. Il y a eu la période de la plongée profonde, où on a fait plonger des hommes jusqu'à des profondeurs très importantes. Maintenant, la mécanisation de ces plongées rend ce type de recherche moins up-to-date. Mais on s'intéresse à la thérapeutique, c'est-à-dire que quels sont les médicaments, parmi ceux qui sont possibles et utilisables actuellement, les meilleurs à donner dans l'accident de désaturation.
Est-ce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont dans les tuyaux actuellement ?
L'étude n'est pas mienne, c'est mon camarade Pontier qui est en train de la faire. Et il est repassé sur l'animal pour valider un certain nombre de choses. On teste différents anti-agrégants plaquettaires, différents anticoagulants pour voir l'effet que cela procure.
Alors docteur, est-il vrai que les médicaments que l'on trouve dans le Vidal n'ont pratiquement aucune autorisation de mise sur le marché en regard de votre médecine hyperbare ?
Il n'y a aucun médicament qui dispose d'une AMM pour les accidents de désaturation. Par contre, certes, il y a des consensus d'experts. Mais on serait en grande recherche de laboratoires qui s'intéresseraient à ces accidents.
Donc si je comprends bien, c'est un appel au laboratoire.
On a des contacts, mais il faut être clair, les accidents de plongée ne représentent qu'un tout petit nombre de malades. Et ensuite, ils sont globalement bien pris en charge, car les séquelles, même si elles sont graves chez un homme jeune, sont peu fréquentes.
Quelle est en France la fréquence des accidents dus à la plongée, docteur ?
Bon, la plongée loisir, c'est de l'ordre de 5 accidents pour 10 000 plongées. Pour la plongée militaire, on est de l'ordre de 1 pour 10 000, parce que nos procédures sont beaucoup plus sécurisées.
Au niveau du traitement des personnes qui ont été victimes d'accidents de plongée, comment les accueillez-vous ?
Le traitement, à notre sens, doit être le plus précoce possible. C'est-à-dire que dès qu'on a récupéré l'accidenté, il convient de le mettre sous oxygène. Il est préconisé de lui faire boire 1 litre d'eau, de lui donner de l'aspirine, ensuite de quoi il est évacué. Là, il y a une régulation qui est mise en œuvre, qui est la régulation par le SAMU. Le patient est adressé dans un centre hyperbare, le nôtre ou un autre. Il y a une coopération entre les différents centres hyperbares de la région. Et après un examen clinique qui permet de voir quelles sont les atteintes du patient et la prise en compte de ses paramètres de plongée, sera prescrit une table thérapeutique, c'est-à-dire qu'il sera recomprimé.
Docteur Constantin, il y a 3 types de plongeurs d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a les plongeurs donc militaires, les scaphandriers donc dans le civil, et la plongée de loisirs qui regroupe pas mal de plongeurs professionnels. Ces gens-là sont-ils suivis de manière similaire ?
Ah non, ça n'a rien à voir. Sur le plongeur militaire, la contrainte est forte et ils sont obligés de passer devant le centre d'expertise du personnel plongeur, qui est donc une des deux branches de notre service, et l'aptitude est faite dans ce centre d'expertise. Pour les scaphandriers, l'aptitude est faite suivant un arrêté dit de 1991 qui prévoit un grand nombre d'examens paracliniques à leur faire. Ça ressemble beaucoup à la plongée militaire. C'est pas exactement les mêmes, c'est pas exactement les mêmes périodes, mais c'est très semblable. Et puis, il y a la plongée de loisir. Sur la plongée de loisir, les professionnels n'ont peu ou pas de contraintes quant à leur suivi.
Est-ce à dire qu'il y a des risques pour ces plongeurs professionnels ?
Je pense que les risques sont majeurs pour ces plongeurs professionnels parce que c'est eux qui, en termes de nombre de plongées, font la quantité la plus importante. Un plongeur militaire plonge beaucoup moins qu'un moniteur de plongée loisir. En plus, il plonge d'une façon beaucoup plus stricte et encadrée. Donc, effectivement, les gens qui travaillent dans la plongée loisir sont ceux qui ont le plus de risques.
Il n'y a donc pas de cadre juridique. Quel est l'organisme qui aurait peut-être vocation à aller vers ce cadre juridique ?
Il y a un cadre juridique, puisque les gens dépendent du code du sport. Simplement, pour la plongée de loisir, il me semble fort peu contraignant et peut-être pas assez.
Docteur Constantin, dans quel cadre sont amenés à évoluer les plongeurs de l'armée ?
Les plongeurs de l'armée, c'est des entités extrêmement différentes. Vous avez d'abord les plongeurs de bord. Les plongeurs de bord, eux, ils interviennent sur leur bateau pour des problèmes qui pourraient survenir en mer et visiter les coques pour voir s'il n'y a pas d'avarie ou d'attaque, visualiser, faire des inspections de coques. Après ces plongeurs de bord, il y a les démineurs qui ont un rôle de NEDEX, c'est-à-dire de déminage aussi bien en surface que sous l'eau. Et puis il y a les nageurs de combat, qui eux ont un rôle opérationnel offensif. Ça c'est pour les plongeurs de la marine, voire de l'armée de terre. Il y a aussi des plongeurs dans l'armée de l'air et des plongées particulières dans l'armée de terre, dans des eaux douces, dans des eaux, dans des fleuves ou dans des égouts. Et des plongeurs sur hélicoptère aussi dans l'armée de l'air. Donc les missions de chacun correspondent aux besoins propres de leurs armées.
Docteur Constantin, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin à l'hôpital Sainte-Anne, médecine hyperbare.
Je vous remercie.